Alors, je vais commencer par des remarques assez générales qui m'ont été nécessaires en tout cas pour faire le lien entre ce travail et les thématiques du colloque. Interroger l'imaginaire de la prédation, d'ailleurs peut-être plus spécifiquement ici dans son pouvoir métaphorique, apparaît en premier lieu comme une question anthropologique tout à fait essentielle. Synthétiquement, on peut dire que le dispositif cinégétique articulera en tension l'angoisse et le désir, sous les traits de la dualité d'opposition prédateur-proie, du temps stratégique de la chasse et de l'événement essentiellement violent, désiré ou redouté, de la capture, de tuer ou d'être tué, scène clé et point focal de l'ensemble, impliquant, dans une tension dramatique certaine, la question de l'issue de la prédation engagée. Venu du fond le plus archaïque de la chasse, d'un être chasseur, mais aussi de se trouver soi-même en position de proie, fond expérientiel dont l'humanité garderait en et au travers de chacun de nous une certaine mémoire, une mémoire active, transitive, en propre un imaginaire ou des imaginaires de la prédation qui semble se caractériser depuis les temps les plus reculés par une propension à venir représenter, à permettre de se représenter, d'exprimer et finalement de vivre d'autres domaines de l'expérience humaine. Ce pouvoir métaphorique relèverait même d'une valeur quasi séminale si l'on considère que cet imaginaire vient en réalité structurer en profondeur et informer de l'intérieur ces domaines autres, dans les conditions et les modalités même de leur expérience. On retrouve ainsi un tel dispositif de représentation dans les plus banales ou grossières catachrèses de la séduction érotique ou de la guerre, mais encore dans les expressions notamment oniriques de l'inconscient psychique, dans la quête spirituelle et l'expérience mystique, et jusqu'au domaine le plus matérialiste du marketing, prêt à tout pour atteindre ses cœurs de cible. En se constituant en propre comme le langage imaginaire commun à une telle diversité équivoque de domaines expérientiels et relationnels, le scénario cinégétique présente une valeur proprement paradigmatique. Il offre la syntaxe d'un récit métaphorique ouvert à une multitude de projections, de significations ou d'identifications possibles. À cet égard, il ne laisse pas d'interroger, voire d'inquiéter par son pouvoir d'expansion même, par sa propension à investir, à conditionner, à déterminer, avec toute sa part constitutive de violence, de désir, d'angoisse, la nature même de ces multiples interrelations en jeu et des rapports fonctionnels dévolus au travers de ces représentations imaginaires ou symboliques à leurs acteurs. Ce pouvoir métaphorique que nous pouvons invoquer au sujet de l'imaginaire de la prédation relève bien comme tel d'une dynamique analogique, au sens où il repose sur la production ou la reconnaissance, consciente ou inconsciente, d'une ressemblance de rapport, et par là d'une continuité qui opère sur fond de différence entre des unités discrètes, qui présentent une valeur structurante et peut fonctionnellement autoriser des substitutions. Il relève bien de l'analogisme, au sens que lui donne Philippe Descola dans Par-delà nature et culture. Si l'analogie constitue bien un des principes recteurs des processus de langage propres à l'imaginaire, et vraisemblablement au niveau cognitif, le modèle même de toute opération de connaissance, c'est bien la pertinence, à la fois comme effet multiplicateur et adéquation à son objet au travers de sa fonction, d'une imagination analogique de la prédation qui pose alors question, question qui se pose nécessairement au travers de ces multiples domaines d'expression et des significations qu'ils mettent alors en circulation. La question du traitement, de la gestion de la violence et de la souffrance, la valeur aussi des aptitudes requises de la part du prédateur et de la proie, de la dynamique mimétique ou d'identification que toutes deux supposent, voilà qui requiert certainement une attention toute particulière et soulève en outre d'importantes questions religieuses, philosophiques, psychologiques, politiques, et peut-être plus spécifiquement de nature éthique, qu'il importait au moins ici de mettre en perspective. Le cœur de mon exposé ne relèvera toutefois pas directement de l'anthropologie ou de l'éthique, mais consiste en une lecture d'un épisode du Pantagruel de Rabelais, dont la première édition date de 1532, qui mettrait directement en jeu l'imaginaire cinégétique dans sa dimension à la fois violente, animale et sexuelle. Si mon approche se limite alors, quant à son objet et sa méthode, à une herméneutique proprement littéraire, c'est sans oublier que les arts, les technés, qu'ils soient visuels ou poétiques, consistent précisément, comme l'indique expressément Aristote, dans l'imitation des étés. Or, C'est bien ce jeu mimétique d'un éthos de la chasse qu'il importe de décrire et d'interroger. D'autant que l'analogisme que j'ai évoqué pour décrire le phénomène d'une imagination active de la prédation relève bien d'une mimésis de la représentation, et que l'art de l'imitation constitue bien une pratique inhérente impliquant une disposition d'esprit propre à l'activité cinégétique, que l'on pense à la peau, au leurre, au camouflage et autres techniques de capture ou de dissimulation, et qu'elle y joue même un rôle vraisemblablement déterminant, ce que je tenterai d'illustrer au cours de mon exposé. Dans le contexte littéraire de l'œuvre rabelaisienne, la mise en scène de la prédation et de son pouvoir métaphorique relève d'une poétique de l'auteur. Elle s'inscrit et se comprend en référence à une stratégie d'écriture. Cette pratique d'écriture, telle que nous pourrons l'aborder ensemble, relève principalement de la stéganographie, équivalent littéraire de l'anamorphose visuelle, qui, d'après Mireille Huchon, rend le mieux compte de la manière rabelaisienne, une textualité tissée par superposition d'images, à quoi l'on pourrait ajouter, en citant Bruno Pinchard, par constellation de signification. Mais ce principe d'écriture constitue bien en lui-même une technique de dissimulation, où ce qui est proposé à la lecture n'est guère ce qui est donné à comprendre, par lequel nous voilons, précise un grand héritier de Rabelais, Bérold de Verville, par lequel nous voilons ce qu'il nous vient à gré d'offrir aux yeux. Ce dispositif de dissimulation repose sur un rapport complexe entre la lettre et l'esprit, entre le texte comme voile de langage et d'image donnant corps au récit, et le sens de ce dernier, du moins le véritable propos qu'il recèlerait. La dissimulation trouve alors paradoxalement sa valeur dans le processus de dévoilement qu'elle est censée autoriser, c'est-à-dire dans l'effort d'une compréhension subtile, subtela, réponse herméneutique que le dispositif stéganographique saura susciter et régir. Dans le prologue du Gargantua, le lecteur est enjoint à ne pas s'en tenir au sens littéral pour « à plus haut sens interprété ». Ainsi porté au désir, je cite, « de lire l'être non apparente ». L'herméneute, eh bien alors celui qui doit pister la trace, la présence en négatif d'un sens caché au travers d'un artifice, d'un leurre littéraire. Pour accéder à cette doctrine plus absconce, je cite encore le texte, qui lui révélerait très hauts sacrements et mystères horrifiques. Or, cette assertion s'accompagne d'une mise en garde. Ces beaux livres de haute Grèce sont particulièrement, je cite, léger au prochat et hardi à la rencontre, c'est-à-dire rapide, prompt à la poursuite et téméraire dans la confrontation, au moment de l'attaque. Ce sont bien les livres rabelaisiens eux-mêmes qui sont alors animalisés par des termes proprement cinégétiques. L'image du lecteur idéal que donne le prologue n'est toutefois pas celle du chasseur, mais de son fidèle compagnon, le chien, lorsque celui-ci vient à rencontrer quelques os à moelle, quelques os médulaires. En vertu de sa patience et de sa détermination, il est ainsi décrété bête du monde la plus philosophe, et modèle du lecteur qui, par curieuse leçon, c'est-à-dire par une lecture attentive et méditation fréquente, saura, la formule est célèbre, rompre l'os et sucer la substantifique moelle. La chasse proprement cinégétique se retrouve dans l'épisode du Pantagruel qui nous intéresse à présent. Elle fait intervenir une véritable meute de chiens, guidée par le fidèle compagnon du prince Pantagruel, j'ai nommé Panurge, qui fait alors figure de grand veneur, ou plutôt de violent trickster. La proie de ces chiens n'a rien d'un quelconque animal sauvage. C'est une femme, qui plus est, une haute dame de Paris, la plus belle qui était en cette ville. En quoi consiste cette irruption de la chasse cinégétique ? Des lois de la forêt au cœur de la cité. Panurge, récemment arrivé dans la capitale, a acquis une certaine renommée pour avoir remporté un débat où il représentait son maître Pantagruel. Aussitôt, profite-t-il de son succès pour faire bien valoir sa braguette. Alors il l'orne, il la décore, etc. Il se voit bienvenu en toute compagnie de dames et damoiselles, au point d'en devenir glorieux, c'est-à-dire présomptueux, vaniteux. Et c'est ainsi qu'il entreprend venir au-dessus d'une des grandes dames de la ville. Expression équivoque sur laquelle nous reviendrons que venir au-dessus. Mais la dame se refuse à ses avances et à plusieurs reprises le menace. Lors d'un ultime refus, Panurge tourne soudainement son faux visage. L'expression est des... interroge également. Et la menace en ces termes. Vous ne voulez donc autrement me laisser un peu faire ? Brin pour vous. Merde pour vous. Il ne vous appartient tant de bien ni de honneur. Mais par Dieu, je vous ferai chevaucher au chien. Le lendemain, il met sa menace à exécution. Il vient trouver la dame à l'église, c'est le jour de la fête du sacre, où les femmes revêtent leurs plus beaux atours. Préalablement, Panurge a recueilli, nourri et tué une lycique orgouze, une chienne en chaleur, pour en retirer une mystérieuse substance qu'il a coupée menu et emportée avec lui. Il sème subrepticement la drogue sur les vêtements de la dame, sur quoi, aussitôt, tous les chiens mâles, qui étaient en l'église, accoururent à cette dame pour l'odeur des drogues qu'il avait épandues sur elle, petits et grands, gros et menus, tous y venaient, tirant le membre, et la sentant et pissant partout sur elle. Un ajout de l'édition de 1534, donc revue par l'auteur, précise « c'était la plus grande vilainie du monde ». Un lévrier, chien de chasse par excellence, vient même alors lui pisser sur la tête et, dixit Panurge, la couverte. Lorsque les chiens se trouvent en nombre suffisant autour d'elle, Panurge part expressément quérir Pantagruel pour lui montrer la scène, enjoignant au passage tous les chiens mâles qu'il croise. « Ne irez-vous donc pas avec vos compagnons aux noces ?»« Devant, de par le diable, devant !» Pantagruel consent volontiers et vit le mystère, lequel trouva fort beau et nouveau. La victime de la vengeance outrancière de Panurge n'a d'autre choix que de s'échapper pour rejoindre sa demeure. Ce qui donne inévitablement lieu à une véritable course-poursuite par les rues de la ville. Partout où elle passait, je cite, « les chiens la suivaient à la trace. Leurs excrétions lui gâtèrent tous ses beaux accoutrements. Mais elle parviendra à terme en son hôtel, se dissimulant à la vue de ses agresseurs. Et chien d'aller après, et elle de se cacher, et chambrière de rire. » Voilà pour l'essentiel du contenu du passage. Dans cette vengeance soudaine, excessive, il est clair que la violence cinégétique, la bestialité sauvage et la souillure scatologique fonctionnent pour Panurge comme un substitut de l'assouvissement sexuel. Dans son analyse de l'épisode, Carla Frecciero a bien souligné en quoi cette substitution consacre l'échec de Panurge et suggère même, très certainement chez lui, un manque constitutif. Il ne saurait passer autrement à l'acte que par le truchement des chiens, et tout particulièrement de ce lévrier dont il clame qu'il a couvert la dame. L'interprétation de la critique, à la fois féministe et d'Héridienne, on peut dire, pointe le caractère éminemment problématique du rapport au féminin dans l'œuvre de Rabelais, c'est-à-dire au sein de ce royaume qui perdure sans femme, pour reprendre une formule très juste de Nicole Charpentier. L'épisode marque le terme, et en quelque sorte l'apogée, de l'importante digression exclusivement consacrée à Panurge. Or, cette digression s'initie sur un récit de ce dernier qui présente une similitude troublante avec l'ultime forfait du Tour à la Dame, qui vient donc clore cette digression consacrée à Panurge. Il affirme alors, au tout début de cette prise de pouvoir, au moment où il monopolise la narration, il affirme alors s'être trouvé lui-même dans une situation tout à fait comparable à celle qu'il impose ensuite à sa victime. Fait prisonnier lors des croisades, il s'est échappé, mais non sans avoir été demi-rôti par ses geôliers. Fuyant par les rues de Constantinople, il attire à lui tous les chiens de la ville, sentant l'odeur de sa paillarde chair demi-rôtie. Donc ils le poursuivent pour le dévorer. Entre les deux épisodes s'instaure un jeu en miroir, qui relève bien déjà d'une superposition d'images, et qui, en outre, comme l'a souligné Carla Frecciero, en le plaçant dans une position analogue à la dame, en tant que proie des chiens, vient féminiser Panurge. Notons que le seul moyen qu'il trouve pour échapper aux chiens consiste à leur jeter quelques morceaux de sa propre chair rôtie, créant ainsi une diversion lui permettant de s'enfuir. Je cite « leur chien d'aller et de s'entrebattre à qui aurait le lardon ». On ne peut manquer de s'interroger quant à l'identité morphologique de ce lardon, quand Panurge évoque, dans la phase grivoise de la séduction de la dame, l'honneur qu'il y aurait à pouvoir frotter son lard avec elle. Mais l'épisode présente également des correspondances analogiques précises avec un autre événement du récit, ce qui, à ma connaissance, n'a jamais été signalé en tant que tel. L'exposition de cet événement prend place aux premières lignes du chapitre suivant, Le Tour à la Dame. Peu de temps après, apprend-on, est-il précisé dans l'incipit du chapitre, peu de temps après avoir assisté à ce spectacle mis en scène par Panurge, Pantagruel apprend que son père Gargantua a été translaté au pays des fées, tout comme le roi Arthur, hein, en Avalon, par Morgane. Ayant eu vent de cet événement, un peuple voisin, les Dipsodes, ont conquis le royaume d'Utopie et assiègent à présent la capitale des Amarotes. Le jeune prince, accompagné de ses compagnons, quitte immédiatement Paris pour défendre alors son peuple et reconquérir les terres de son lignage. Donc les Amarotes, c'est le peuple dont son père Gargantua est le roi, et le royaume, c'est Utopie. La succession des deux épisodes relève en apparence d'une franche disjonction narrative, d'une discontinuité fondée sur l'altérité des deux protagonistes. Le nouveau chapitre marque un recentrement sur Pantagruel, après cette longue digression panurgienne, et sur son évolution en tant que prince promis à la royauté, qui constitue donc censément l'objet même de cette chronique royale. La réception des nouvelles, donc c'est une missive qu'il reçoit, présente bien un effet déclencheur qui informe toute la suite du roman. Pantagruel vaincra ses adversaires, reconquérera ses terres et devient par la même occasion le roi des Dipsodes, ce qui était annoncé en titre du roman. Mais les deux événements présentent une série de similitudes narratologiques, structurelles et fonctionnelles, également linguistiques, en faisant notamment intervenir l'onomastique. Ces similitudes viennent relativiser la valeur disjonctive de la succession des deux épisodes. À la substitution du synégétique au sexuel, s'adjointe alors l'articulation stéganographique d'une conquête proprement guerrière. Nous trouvons ainsi, de part et d'autre, le motif d'un groupe agressif qui réagit immédiatement à un signal interprété par eux comme celui de la disponibilité de l'objet de leur conquête. La meute des chiens en rut, fondant sur la dame attirée par l'odeur des drogues, correspond au peuple des envahisseurs qui assaillent Utopie immédiatement après avoir entendu le bruit de la translation du roi. Le nom même de ce peuple, les Dipsodes, c'est-à-dire, c'est une étymologie grecque, littéralement les assoiffés, n'est pas sans pouvoir évoquer l'ardeur, la rage sexuelle des chiens. Lorsque le narrateur fait part du désir de Panurge de conquérir la dame, je l'ai évoqué précédemment, c'est l'expression très significative « venir au-dessus » qui est employée. Je passe sur les multiples sens à la fois sexuels, d'humiliation sociale, morale, qui... donc l'expression joue richement sur l'équivoque, mais elle signifie sur le point, elle signifie en propre être sur le point de l'emporter sur. Et elle ressortit en propre au registre de la conquête militaire. Or, les nouvelles reçues d'Utopie font bien état d'un assaut guerrier où, à proprement parler, ce sont les Dipsodes qui viennent au-dessus des Amarotes. Si l'on considère les conséquences des exactions commises par les deux groupes sur leurs victimes respectives, le rapport analogique se poursuit. Les nouvelles reçues par Pantagruel en provenance de ces terres indiquent que les Dipsodes, après être issus de leurs limites, avaient gâté un grand pays d'Utopie. Le terme gâté indique alors des terres dévastées par les malfaisants, et renvoie donc au motif de la terre gaste dans la littérature arthurienne. Or, lors du tour joué à la dame, c'est remarquablement le même terme qui vient décrire la souillure dégradante des chiens. Les contenances de ces chiens lui montaient jusqu'au col et lui gâtèrent tous ses beaux accoutrements. Notons également que si Panurge provoque l'excitation et guide ensuite la meute des chiens, la horde des envahisseurs a elle aussi un chef militaire, qui porte le nom évocateur de loup-garou. Ce nom est évocateur puisque, d'après Bertrand Hell, je cite son ouvrage Le sang noir, chasse et mythe du sauvage en Europe, « Mus par la fureur sauvage, les loups-garous sont naturellement considérés comme des violeurs de femmes. » Si la lycanthropie est alors évoquée dans le contexte guerrier, L'accès de fureur sexuelle des chiens ressortit apparemment à une même perspective symbolique. Le jeu de correspondance se maintient jusqu'au terme des deux séries. Donc je vais accélérer un petit peu, puisque les Dipsodes font le siège de la ville, tandis que les chiens font également le siège du logis de la dame. Donc converge tous sur sa maison quand elle parvient à s'y réfugier. Les Amarotes vient du grec et signifie les faits d'eux des êtres obscurs, difficiles à percevoir. Or, on apprend bien que la dame se cache, se dissimule au regard des chiens. Je peux pas donc passer à ma conclusion. Sur fond de disjonction narrative d'un personnage à l'autre, de discontinuité apparente entre les deux épisodes, se tisse alors une continuité analogique, dont le nœud symbolique étant propre le rapport de prédation. Cette construction stéganographique ouvre à une herméneutique dans laquelle les jeux de référence, d'identification et de substitution obéissent à des règles strictes et semblent, dans le même temps, beaucoup plus fluides qu'on pourrait supposer au premier abord. Dès lors que les personnages et les événements mis en scène participent ainsi les uns des autres, on peut considérer qu'ils s'apparentent dans le champ du récit romanesque à des instances et des dynamiques psychiques, voire métaphysiques, non plus à des personnages-personnes au sens d'un réalisme social. Il a déjà été suggéré que Pantagruel et Panurge constituent deux alter-ego. Le nomastique l'indique encore, je passe là-dessus, mais reste à assumer pleinement les conséquences interprétatives de ce fait-là. Mettant en scène ce qui est qualifié de spectacle, de mystère au sens du théâtre médiéval, pour le placer expressément sous les yeux de Pantagruel, que fait Panurge, sinon donner à voir au prince sous une forme altérée ce qui se joue dans son lointain royaume? Ou devrait-on considérer que le tour à la dame et l'envahissement d'utopie ne sont au fond qu'une seule et même chose, qui se joue indifféremment, extérieurement et dans l'intimité même du prince géant? Quoi qu'il en soit, la signification de la scène n'est donnée qu'à la réception de la missive, et le rapport entre les deux événements est bel et bien occulté par leur hétérogénéité apparente relevant du sens littéral. Dans ce dispositif anamorphique, le lecteur doit alors se placer de biais, comme vous pouvez le suggérer pour réinterpréter cette image, une anamorphose, donc lire le tour joué à la dame du point de vue décalé à l'incipit du chapitre suivant du contenu de la missive qui parvient à Pantagruel. Ça pose une question herméneutique, ça amène à considérer que Pantagruel n'est peut-être pas étranger à la translation de son père et à l'envahissement d'utopie, condition préalable de sa propre consécration. Panurge, cette ombre de Pantagruel qui engendre les altérés, je cite le texte, n'assume-t-il pas alors un acte négatif nécessaire à l'évolution du jeune prince ? Je passe là-dessus, j'aimerais juste terminer, dépêcher un petit peu. Peut-être des petites choses qui vont manquer, mais qui est la dame, finalement, là-dedans ? Au cœur de ce duo d'alter-ego, la figure féminine marque sa présence en creux, en négatif. Si je l'ai jusqu'à présent assimilée au peuple d'Utopie, on peut à présent suggérer, et je pense que c'est plus correct, qu'elle représente, ou qu'elle est intérieurement pour Pantagruel, l'âme même de son père. C'est-à-dire la vertu du lignage royal et finalement la royauté personnifiée. Ce qui renvoie à un motif mythologique et même doctrinal celtique. Le lieu où elle vient se réfugier, qu'on l'appelle Avalon, ou qu'on l'appelle l'hôtel de la Dame de Paris, n'est autre que le corps et la personne même de Pantagruel, où elle réside pour l'heure négativement, c'est-à-dire en puissance. Gargantua ne lui écrit-il pas « Quand mon âme laissera cette habitation humaine, je ne réputerai totalement mourir ». Il semble évoquer alors sa translation en Avalon, mais non, il dit « Mais transmigrer d'un lieu en un autre, pour signifier à Pantagruel qu'il est le garde et trésor de l'immortalité de leur nom ». Et que ce n'est pas seulement par le corps, mais surtout par l'âme que le fils doit alors ressembler au père. Pour Carl Alfrecchero, en revanche, dans le Pantagruel, la femme est le corps, à l'intérieur et à l'extérieur du texte, au sens où cette énigme qu'est la femme dans le texte de Rabelais est aussi la condition de possibilité de l'écriture, qui ouvre littéralement l'espace de cette relation relatée entre ces deux alter-ego, Pantagruel et Panurge. Mais qu'est-ce que la textualité rabelaisienne ? Le prologue du Gargantua compare les livres pantagruéliques à des bêtes de proie, ou encore à un os à moelle rongé par un chien. Mais alors, que dire du fait que, lors de sa première tentative de séduction, au demeurant fort grivoise, Panurge lance à la dame « Voici maître Jean Jeudi, il parle évidemment de sa braguette, qui vous sonnerait une anticaille dont vous sentirez jusqu'à la moelle des os. » Voilà. Je vous remercie de votre attention.